Nous abordons ce soir l'enseignement de l'Église sur la fin des temps à cause du mois de novembre et de la fin de l'année liturgique. Nous faisons une petite halte sur la lecture suivie de l'Évangile pour aborder cette question afin de mieux comprendre d'ailleurs ensuite ce que le Christ va enseigner lorsque nous lirons ces passages. Et c'est la raison pour laquelle j'utiliserai pour cela tout d'abord comme livre le catéchisme de l'Église catholique de 1992. À la page 147 du grand volume, donc je vais plutôt vous donner les numéros bien sûr, c'est le numéro 668. À un près, à deux près, c'était très drôle, mais bon. Article 7, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Il reviendra dans la gloire. Tout d'abord, le Christ règne déjà par l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des croyants baptisés, et ceux qui font partie de l'âme de l'Église par le baptême de désir et qui sont attachés à Dieu et à la vérité tout en n'étant pas forcément évangélisés. Ce sont tous ceux qui font le bien, mais au nom justement d'une foi surnaturelle. On vous dira qu'il existe des hommes honnêtes et justes qui se disent athées. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont agnostiques, c'est-à-dire qui ne savent pas exactement, mais, si vous voulez, un athée pur et dur et que ce soit un saint homme, pour moi, ça n'existe pas. Et il va dire qu'il est athée, mais en fait, il est agnostique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de certitude, de foi, mais il y a, si vous voulez, dans sa conscience une attirance toute particulière vers le bien et à laquelle il obéit de manière surnaturelle et ce qui le justifie ou peut le justifier, alors même que il ne va pas pratiquer une religion. Si vraiment c'est un homme particulièrement honnête extérieurement qui fait le bien chaque jour et dont on ne voit pas d'actes mauvais ni de médisance ni de violence ni de mépris, si vous voulez, ce sont des exceptions, mais qui sont notables, puisque la plupart du temps, ce sont ces exceptions-là qu'on nous jette à la figure pour nous dire que la religion est inutile. Seulement, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle le salut dans l'ignorance invincible, et qui a été le cas de personnes qui n'étaient même pas au contact de leur fausse religion, et qui vivaient dans les montagnes, je ne sais pas, par exemple au Pérou, dans les années 1260 ou 828. Je prends des dates exprès, sans aucun sens particulier. Si vous voulez, toute personne a la grâce de se sauver. Et lorsque l'Église parlait des limbes, c'est pour ceux qui meurent sans avoir posé un acte conscient et libre, comme les bébés, ou comme ceux qui meurent dans le ventre de leur mère dans une fausse couche, à quelques mois de développement, ou même parfois à quelques semaines, eh bien, tout cela, nous le recommandons plutôt à la miséricorde de Dieu, les limbes étant une manière d'exprimer l'ignorance dans laquelle se trouvent les hommes, de savoir comment un être a pu choisir librement et consciemment d'aimer Dieu et son prochain lorsqu'il est dans le ventre de sa mère ou petit bébé. Alors vous me direz, est-ce que le fait de lui mettre de l'eau sur la tête ou de le plonger dans l'eau va faire une différence dans sa conscience? Quand vous avez baptisé un enfant de 2 ans qui se débat et qui hurle, vous dites, est-ce que vraiment... il n'est pas conscient, si vous voulez, de la grâce qui lui est donnée. Il y a une grâce surnaturelle dans le baptême d'eau. Et pour quelqu'un qui est inconscient, cette grâce surnaturelle est très puissante. et illumine l'âme et change l'âme. C'est le caractère baptismal. Un adulte, lui, peut très bien être justifié avant son baptême, avec un baptême de désir. Mais si vous voulez, son baptême de désir est dans l'ignorance invincible et qu'il veut faire le bien chaque jour de sa vie, et qu'il désire que la cause de ce bien, son Père, son Créateur, le sauve, eh bien, il croit au moyen du salut, et il croit à la bienveillance et à la bonté de son Créateur. Et à sa mort, il découvre que le moyen de salut, c'est Jésus. Mais il a cru en Dieu, il a cru qu'il y a le bien et le mal, que le bien est récompensé, qu'il faut faire le bien, qu'il veut le faire, et que Dieu lui donne la force de le faire par la grâce de salut. Cette grâce de salut, c'est par Jésus-Christ, c'est par l'incarnation. Mais un petit aztèque des années 800 ne le sait pas. Voyez. Ou alors un vieillard aborigène d'Australie ne le sait pas que c'est Jésus, dans les années de 1328, par exemple. Eh bien, pourtant, il se sauve. Mais c'est parce qu'il avait un baptême de désir dans l'ignorance invincible. Pour ceux qui sont en France actuellement, être dans l'ignorance invincible de l'existence de Noël, de Jésus-Christ, c'est un peu plus difficile. Mais si on leur a mal exposé la foi, ou très peu exposé, ou même lorsqu'on a critiqué cette foi, comme dans l'enseignement juif, dans l'enseignement musulman, on est très critique quand même par rapport à l'incarnation, par rapport à la divinité du Christ. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de faute de leur part, mais par contre, ils doivent de tout leur cœur faire le bien et demander le salut de Dieu. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, à la fin des temps, on va savoir tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans les consciences? Et qu'est-ce qu'ils désiraient entre le bien et le mal? Et des personnes vont être sauvées à l'étonnement d'autres, si vous voulez, mais parce que, en conscience, ils avaient cela. C'est avec ces explications qu'on comprend mieux la fin des temps. Numéro 668 du CEC de 1992, Catéchisme de l'Église catholique. Le Christ règne déjà par l'Église. Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Épître aux Romains, chapitre 14, verset 9. Il est le Seigneur de tous, pas seulement des Européens, mais aussi des Aborigènes, des Esquimaux, des Coréens, des Japonais, de tous les pays d'Afrique, de l'Asie, des Bouddhistes, des Hindous, des... Voilà, c'est Jésus-Christ qu'ils verront à leur mort. Ils verront pas Bouddha, ils verront pas Mahomet, ils verront Jésus. Et le dire aussi franchement, vous voyez, de nos jours, c'est rare. Vous voyez, vous bénéficiez d'une franchise particulière, mais qui est pleine de charité pour toutes ces fausses religions. Mais si vous voulez, au moins, il faut le dire. L'ascension du Christ au ciel signifie sa participation dans son humanité, vrai Dieu et vrai homme, à la puissance et à l'autorité de Dieu lui-même. C'est le signe qu'il est déjà. Son ascension est un signe pour les apôtres. De voir le corps du Christ monter vers les cieux, et on ne sait pas où le Christ se trouve actuellement, il n'est sûrement pas ni sur une planète, ni sur un nuage, donc il est quelque part, ça c'est sûr. Mais Dieu ne nous a pas révélé où. La Vierge Marie est quelque part, avec son Fils. Et lorsqu'elle vient sur terre, elle vient de ce quelque part. Elle arrive, elle repart. Et à Fatima, on voit les branches ployées et se relever. Oui. Sainte Bernadette voit la Vierge Marie, et si la piété populaire fait qu'on touche la grotte de Lourdes, quand on passe à Lourdes, c'est parce que la piété populaire, quel que soit l'avis des théologiens, sait que les pieds de Marie étaient posés sur le rocher en haut, 2 mètres plus haut. Oui. La force de la piété populaire, indestructible. Donc le Christ en faisant le miracle de l'ascension signifie qu'il est dans la gloire, mais aussi par son humanité, sa nature humaine. Jésus-Christ est Seigneur, il possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance et souveraineté, car le Père a tout mis sous ses pieds. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 20-22. Le Christ est le Seigneur du cosmos, terme grec ici, un peu moderne comme acception, c'est de l'univers, on disait plus communément, et de l'histoire. Vous voyez, il n'y a qu'une seule vraie religion. En lui, l'histoire de l'homme et même toute la création trouvent leur récapitulation. Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Leur achèvement transcendant. Numéro 669. Comme Seigneur, le Christ est aussi la tête de l'Église, qui est son corps. Élevé au ciel et glorifié, ayant ainsi accompli pleinement sa mission, il demeure sur la terre dans son Église. La rédemption est la source de l'autorité que le Christ, en vertu de l'Esprit-Saint, exerce sur l'Église. Il a mérité d'être notre chef. D'abord parce qu'il est Dieu, avant même en soi la crucifixion, mais en plus par la crucifixion, puisqu'il nous a rachetés. Le prix de son innocence, au lieu de le réclamer à nouveau, ce qui aurait été un deuxième péché originel, eh bien, il l'offre pour effacer le péché originel et donner la grâce à tous de pouvoir surmonter le rescrit de condamnation à mort, le chirographe. Vous voyez, je prends un manuscrit et je dis, la nature humaine, ayant voulu être divine sans Dieu, ayant voulu exister sans Dieu, est condamnée à mort. Point. Vous voyez, ça c'est le chirographe qui pèse sur tout homme. Eh bien, saint Paul dit que le chirographe a été déchiré par le Christ. Donc nous avons la possibilité, les derniers seront les premiers, de nous sauver. Alors, la rédemption est la source de l'autorité que le Christ, en vertu de l'Esprit-Saint, exerce sur l'Église. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église, germe et commencement de ce royaume sur la terre. Depuis l'ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà à la dernière heure, nous dit saint Jean dans sa première épître, chapitre 2, verset 18. Ainsi donc, déjà les derniers temps sont arrivés pour nous. Voilà, mais ça y est, c'est déjà la fin du monde. Voilà. Donc, seulement, au point de vue immortalité, c'est pas vraiment ça. Oui, voilà. Donc, ainsi donc, déjà, le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et, en toute réalité, anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté, et le royaume du Christ manifeste déjà sa présence par les signes miraculeux qui accompagnent son annonce par l'Église. Encore maintenant, pour béatifier, pour canoniser, on demande à Dieu un miracle. Et il le fait. Mais, paragraphe 2 en quelque sorte, en attendant que tout lui soit soumis, c'est le numéro 671. Déjà présent dans son Église, le règne du Christ n'est cependant pas encore achevé avec puissance et grande gloire. Ben oui, ça se voit par les membres de l'Église qui sont pécheurs, par les scandales. Vous voyez. Par l'avènement du roi sur la terre. Mais roi, R majuscule, Ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont déjà été vaincues à la base par la Pâque du Christ. Satan est déjà vaincu. Seulement, il va grappiller le plus grand nombre d'âmes possible avant la fin des temps. C'est de bonne guerre. Jusqu'à ce que tout lui ait été soumis, jusqu'à l'heure où seront réalisés les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habite, l'Église en pèlerinage porte dans ses sacrements et ses institutions qui relève de ce temps, la figure du siècle qui passe. Elle vit elle-même parmi les créatures qui gémissent présentement encore dans les douleurs de l'enfantement et attendent la manifestation des fils de Dieu. Cet extrait de saint Paul, c'est 1 Corinthiens 16, 22, l'Apocalypse chapitre 22, versets 17 et 20. Pour cette raison, les chrétiens prient surtout à la messe, dans l'Eucharistie, pour hâter le retour du Christ en lui disant « Viens Seigneur Jésus ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la messe de 69, finalement, de manière beaucoup plus claire et à haute voix, on dit que le Seigneur arrive. Vous voyez ? Et c'est très beaucoup plus clair. Voilà. Mais c'est bien. Vous voyez, c'est par exemple, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. En latin, hein, c'est Mysterium Fidei. Annunciamus mortem tuam. Et resurrectionem tuam. Donec veniat. Annunciamus mortem suam. Nous annonçons sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. C'est très eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, du retour du Christ. Et le temps de l'Avent dans lequel nous allons entrer et la fin de l'année liturgique dans laquelle nous sommes ne cesse d'appeler au retour du Christ. La fin de l'année liturgique, c'est plutôt le retour du Christ qu'on va recevoir, mais qui nous fait un peu peur parce que c'est le jugement. Tandis que dans le temps de l'Avent, c'est très poétique, n'est-ce pas ? On est là pendant 4 semaines à attendre, à assimiler l'anniversaire de la venue de Jésus, petit bébé, avec le retour glorieux du Christ ressuscité. C'est un mélange extrêmement spirituel et qui fait du temps de l'Avent un temps extrêmement profond, puisqu'il unit l'enfant Jésus et le retour glorieux du Christ. Et c'est qui atténue, si vous voulez, le côté dur du retour du Christ pour nous juger cette fois-ci. Mais pour le coup, il nous aura donné du temps. Et vous me direz, oui, mais une personne de 22 ans qui meurt dans un accident de voiture, a-t-elle eu du temps pour se convertir ? Oui. Dieu donne toujours le temps qu'il faut. Parce que Dieu nous aime. Vous voyez, un des grands principes du catéchisme ou de la foi, n'est-ce pas ? C'est fondamental et c'est benêt ce que je vous dis. Et il faut absolument que vous considériez très fortement que Dieu veut permettre uniquement ce qu'il y a de meilleur pour vous, à tout instant. Et si vous ne croyez pas que Dieu a cette bienveillance et cet amour pour vous, vous allez prendre les épreuves de la vie de manière beaucoup plus austère et sèche. Mais si vous croyez vraiment qu'il vous aime, alors tout ce qui vous arrivera, vous pourrez le prendre en meilleure part et en bonne part. Mais cela fait partie de la foi et de l'espérance et de la charité. La foi, c'est parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, il est infiniment bon et infiniment aimable. L'espérance, c'est que justement Dieu ne va pas nous donner des pierres quand on lui demande du pain ou des scorpions lorsqu'on lui demande un œuf. Et la charité, c'est d'aimer Dieu en retour. Seulement, voyez-vous, comme la vie n'est pas facile, comme dirait notre président de la République sortant, c'est difficile, n'est-ce pas ? Eh bien, parfois, on se dit quand même que Dieu aurait pu nous faciliter les choses. Alors, comment cela va se réalise-t-il, puisqu'on avait souhaité que tout le monde fasse une ronde autour du monde en se tenant par la main et d'arriver au retour du Christ, mais dans un millénarisme. Mais Adolf Hitler lui-même avait souhaité ses 1000 ans de bonheur, mais à sa façon, vous voyez. Mais le Reich de Milan, c'est fondé sur la parole de l'Apocalypse, sur les 1000 ans du règne du Christ. Je sais pas si... Il est bon de connaître sa religion parce que ça te permet de connaître toutes les erreurs possibles et imaginables qui sont autour de nous. Et Adolf Hitler était catholique d'éducation. Il avait vu des croix gammées un peu partout dans le monastère bénédictin où il était petit parce que le père abbé avait fait un passage en Inde et était tombé amoureux de la swastika, donc il y avait des croix gammées dans certains endroits du monastère, ce qui a marqué le petit Adolphe, et qui était fasciné par la croix, qui était fasciné par l'hostie aussi, puisque au risque de vous choquer, si vous voulez, le drapeau nazi, c'est la croix et l'hostie, hein, et le sang. Alors les martyrs de son coup d'état, mais si vous voulez, c'est quand même quelque chose de très malsain et de très faussement mystique, hein, les symboles nazis, avec une dérive des SS qui était plutôt qui était païenne, avec le soleil noir et les runes païennes. Mais Hitler, lui, était plus dans un mélange, pseudo-chrétien, où il était une sorte de prophète, voyez. Et il devait rétablir un royaume de 1000 ans. Et ben, ça n'a pas duré 1000 ans, heureusement pour nous. Mais le millénarisme consiste à vouloir que le Christ devienne le président de l'ONU et nous offre un iPhone tous les ans, sans payer 25 euros par mois chez SFR, et d'avoir une source illimitée de Wi-Fi Max par des satellites autour de la Terre. Et voilà. Ça, c'est le règne de Jésus, superstar. Vous voyez, Jésus, président des États-Unis, puis président de l'ONU, et qui nous offre le bonheur absolu pour 1000 ans. Voilà. Eh bien, figurez-vous qu'il y en a qui le souhaitent, hein, et qui même ont une théologie qui approche de cela, parce qu'ils pensent que sur la Terre, à un moment donné, il va y avoir un règne merveilleux de bonheur social. Hein, Jésus pourtant nous a dit qu'on aurait toujours des pauvres, mais ils disent à Jésus, tu dois te tromper. Oui. Et donc, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, ça va mal se passer économiquement, nous dit Jésus. Mais il y en a d'autres qui disent, mais non, un jour tous les riches comprendront qu'il faut qu'ils répartissent leurs richesses, tous les pauvres comprendront qu'ils ne doivent pas être assistés ou gâcher l'argent qu'on leur donne, et ça fera un équilibre extraordinaire, on sera tous de moyenne bourgeoisie. Vous voyez, universellement, c'est la Suisse, tous bourgeois. Voilà. Vous voyez, plus d'ouvriers, plus de... on ne sait pas exactement, mais enfin, on aura tous 2000 euros par mois, et non pas seulement 800 euros, enfin voilà, excusez-moi, je le développe parce que, ensuite, ça va être dit clairement. Numéro 672. Le Christ a affirmé avant son ascension que ce n'était pas encore l'heure de l'établissement glorieux du royaume messianique attendu par Israël, qui devait apporter à tous les hommes, selon les prophètes, l'ordre définitif de la justice, de l'amour et de la paix. Alors vous comprenez pourquoi il y en a qui sont millénaristes. Ils pensent qu'un jour, ça va être merveilleux sur Terre. Hein, mais à la limite, on a dit, mais alors il n'y aura même plus de mort subite du nourrisson, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de cancer non plus. Non, parce que Dieu aura permis un développement extraordinaire de la médecine, et vous passerez dans une machine, et hop, on ne veut plus de cellules cancéreuses. Vous savez, c'est comme dans les films. Oui. Le temps présent est, selon le Seigneur, le temps de l'esprit et du témoignage. Mais c'est aussi un temps encore marqué par la détresse et l'épreuve du mal qui n'épargne pas l'Église et inaugure les combats des derniers jours. C'est un temps d'attente et de veille. Mince. Numéro 673. L'avènement glorieux du Christ, espérance d'Israël. l'Israël de Dieu. Depuis l'ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Vous voyez, ça fait 2000 ans. Quoi. C'est dans une brasserie, vous avez des panneaux. Demain, on rince gratis. Donc la personne, elle arrive, elle prend son picon bière et elle voit, ah, demain j'arriverai et il m'offrira mon picon bière. Donc il revient et dit, je vous prends un picon bière, oh, non, un Monaco s'il vous plaît. Oh oui. Et donc à la fin, monsieur, c'est 4 euros. Ah ben non. Hier vous avez mis ce panneau, demain on rince gratis. Et là, le patron lui dit, vous n'avez mal lu. Demain, on rince gratis. C'est demain. Alors, il revient le lendemain et il prend un demi sans faux col et l'autre lui dit 5 euros. Alors, c'est pas quand même possible. Vous m'avez dit hier, demain, on rince gratis. Et vous avez mal lu. Demain, on rince gratis. Eh bien, Dieu, lui, il a beaucoup d'humour et il nous dit, demain, j'arrive. Et alors, le lendemain, on est là, on attend, il n'y aura plus de souffrance, plus de péché, plus de maladie. Et là, on lit la Sainte Écriture, et dit, demain, j'arrive. Donc voilà, et ça fait 2000 ans. Et... Voilà. Alors, c'est un temps d'attente et de veille. Depuis l'ascension, l'avènement du Christ, nous dit le numéro 673, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. C'est pour demain, même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Et là, c'est moins facile. Cet événement eschatologique, qui concerne la fin des temps, peut s'accomplir à tout moment, même s'il est retenu, lui et l'épreuve finale qui le précédera. Alors là, je ne sais pas, il n'ose pas le dire. Parce que saint Paul nous dit, vous savez ce qui le retient. Le mystère d'iniquité est en... Mais vous savez ce qui retient ce mystère d'iniquité de nous écraser. Et c'est quoi? Et vous le savez? Non? Voilà. Mais peut-être ceux à qui il écrivait, ils le savaient, mais nous, on ne le sait pas. Et en fait, à mon avis, même ceux à qui il écrivait ne le savaient pas. Mais, si vous voulez, on ne sait pas exactement à quoi c'est retenu. Alors, de manière générale, on considère que c'est la messe. Tant qu'il y a des messes qui sont célébrées, l'antéchrist ne peut pas régner absolument. Il faut que le nombre de messes diminue pour que le mal puisse s'étendre sur la terre. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire, à sa reconnaissance par tout Israël. Romains chapitre 11, verset 26. Matthieu, chapitre 23, verset 39, dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité envers Jésus. Donc, tant qu'il n'y a, il y a des personnes qui doivent être sauvées, la fin du monde n'intervient pas. Saint Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 21. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps de répit. Il enverra alors le Christ qui vous est destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes. C'est vraiment des extraits de la Sainte Écriture qui sont vraiment peu connus. Saint Pierre leur dit que le Christ va revenir. Il vient de mourir quand même, il est ressuscité, mais il va revenir, et déjà Saint-Pierre leur dit, et que c'est par leur conversion qu'il pourra revenir. Et Saint-Paul lui fait écho. Si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur assomption, sinon la vie sortant des morts? Romains, chapitre 11, verset 15. De manière extrêmement fine, ici, dans le catéchisme de l'Église catholique de 1992, l'Église catholique a l'audace de dire que les Juifs de descendance juive conditionnent le retour du Christ et que c'est un des éléments de la fin des temps. Et c'est affirmé ici dans le catéchisme. Parfois vous vous dites, voyez, c'est dans tel livre, c'est dans celui-ci, c'est dans celui-là. Eh bien, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Et il cite exactement ce qu'il faut citer, c'est-à-dire, si leur mise à l'écart, c'est douloureux d'entendre ça. D'ailleurs, pour un juif pieux, ça le vexe, parce que ça veut dire que pour l'instant, ils sont en suspens. Mais cependant, Saint Paul est fondamentalement extrêmement bon, puisqu'il leur dit, mais quand vous allez vous convertir, mes chers frères, moi qui suis juif, pharisien, persécuteur de l'Église et converti par le Christ, quand vous allez vous convertir, ça sera extraordinaire. L'entrée de la plénitude des Juifs, vous vous rendez compte? Là, au collège des Bernardins, ils ont un arrêt cardiaque quand ils lisent ça, ils ne le lisent pas. Romains, chapitre 11, verset 12. Dans le salut messianique, à la suite de la plénitude des païens, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les nations païennes aient eu l'évangile avant, donnera au peuple de Dieu de réaliser la plénitude du Christ, dans laquelle Dieu sera tout en tous. Thank you.